voix nue. Cette semaine, Stéphane Manchematin rencontre Angélique Yonatos. Ce soir, chanson nomade.
Bonsoir Angélique Yonatos.
Bonsoir.
Nous avons évoqué hier vos racines grecques, votre enfance, vos parents, votre frère Fotis et vos débuts dans la chanson. Alors j'aimerais ce soir que, si vous en êtes d'accord, que nous nous focalisions davantage encore sur la chanson.
D'accord.
La chanson, c'est la langue la plus populaire en Grèce, non ?
Oui. Il y a très peu de gens qui ne chantent pas en Grèce. Enfin, moi, j'en ai rarement vu. Oui.
Et on a l'impression que ça dure depuis longtemps, depuis l'Antiquité.
Oui, les Aèdes. Il paraît que même l'Odyssée était chantée. Bon, c'est pas si c'est vrai.
C'est quoi le mot grec pour dire chanson ?
Tragoudi. Et tragoudi vient de tragoudia, qui est la tragédie. Eh oui, on ne se refait pas. Moi, j'étais très étonnée quand j'ai appris l'étymologie, parce que je suis passionnée par l'étymologie du grec, parce qu'il n'y a pas de mot qui n'a pas d'étymologie. Et donc, je me disais, tragoudi, tragoudi, est-ce que ça... Et puis, j'ai vérifié, et ça vient effectivement de tragodia, qui est la tragédie.
Alors, en tant que chanteuse, vous avez reçu pas moins de 3 fois le prix de l'Académie Charles Cros. Ce qui n'est pas rien pour un chanteur. Je pense qu'il y a assez peu de chanteurs qui ont reçu ce prix prestigieux pour la chanson autant de fois. Et vous l'avez un peu évoqué hier, mais j'ai envie de vous demander d'où vous vient ce goût du chant.
Je ne sais pas. C'est très étrange. Je pense que, en tant qu'enfant, écouter ma mère chanter tout le temps, ça ne devait pas être anodin. Et elle chantait tout le temps. Elle parlait aussi beaucoup aux objets. Et c'était quelqu'un qui adorait parler aux objets. Et il faut dire qu'elle était un peu seule. Et puis, elle chantait. Elle nous chantait beaucoup. Et puis, on chantait à 3. Les soirs, quand on ne savait pas quoi faire, ben on chantait. Je ne me suis jamais posé la question, mais j'ai l'impression que le chant a été tissé dans ma vie depuis que je suis née. Parce que c'était comme ça. On chantait. Et je ne me suis jamais posé la question pourquoi. Jamais.
Mais on chantait quoi alors ?
On chantait les chansons qu'on entendait, Theodorakis, Hadzidakis, etc. Et puis elle avait aussi un grand goût pour la musique classique, donc on entendait énormément de musique classique à la maison. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un jour dans mon enfance où il n'y avait pas de musique dans la maison. C'était tout le temps comme ça. C'est pour ça que la guitare est venue un peu naturellement, quoi.
Alors quand on écoute vos chansons, dans les disques ou quand on vient vous écouter en concert, Angélique Yonatos, il y a toujours un mélange de sensualité et de gravité. Eros et Thanatos.
Oui. Alors que c'est très étrange, parce que dans la vie, je suis quelqu'un qui adore rire, qui adore les gens qui ont de l'humour. J'aime pas les gens qui n'ont pas d'humour. Et quand je prends la guitare... C'est toujours le côté tragique qui sort. C'est-à-dire, je compose très rarement en mode majeur. Je vais instinctivement vers le mode mineur. Il m'est arrivé de faire des disques où il y avait un peu plus de majeur que de mineur, mais en général, j'ai une tendance à aller vers le côté, je dirais pas triste, parce que pour moi, la tristesse est un peu fade, mais quelque chose qui a un côté tragique toujours. Oui. Et les textes qui m'attirent, ce sont les textes aussi tragiques.
Mais est-ce que c'est lié aussi peut-être à votre voix ? D'ailleurs, cette voix, comment est-ce que vous la percevez, vous, cette voix grave et envoûtante, âpre, mais toujours très, très sensuelle ?
Vous savez, on n'entend pas sa voix. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est très étonné quand on l'entend enregistrée. Parce qu'on l'entend de l'intérieur, donc on ne sait pas. Et quand je chante... C'est le plaisir de chanter qui prédomine. Mais je ne sais pas, moi, personnellement, ce que ma voix fait aux autres. Moi, c'est ma voix, c'est tout. Je n'en ai pas d'autre.
C'est une voix de contralto ?
Contralto.
Et cette chose qui est de l'ordre de l'envoûtement, lorsqu'on vous écoute, vous en avez conscience quand même ?
Non.
Non, vous n'en avez pas conscience ?
Non.
Quand vous composez ou quand vous chantez, non. Quand vous êtes sur scène, vous n'avez pas conscience que cette voix est très enveloppante aussi
mais... Non. Je n'ai pas conscience. Oui, j'ai fini par le savoir parce que les gens me le disent. Mais moi, je n'ai pas conscience de ça. Pour moi, c'est l'expression de la chanson. C'est-à-dire que à travers la chanson, je m'exprime. Donc, je suis dans l'expression. Je ne sais pas, je ne suis pas dans les faits.
Et lorsqu'on vous voit en concert, on a aussi cette impression d'une alternance permanente entre douceur et gravité, délicatesse et puissance. C'est une voix puissante aussi.
Oui, oui. Mais moi, je suis très mal placée pour parler de ma voix. Je ne sais pas. Je ne sais pas en parler. Même quand je compose, par exemple, je ne sais jamais, puisque je compose toujours avec un texte, je ne sais jamais quand j'ai trouvé la musique de ce texte. Parce que comme je ne sais ni lire ni écrire la musique, je m'enregistre pour pas oublier. Et parce que aussi, j'ai la mauvaise habitude de changer les cordes de ma guitare, ce qu'on appelle dans des accords ouverts. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de chansons qui sont avec des accords qui sont pas les accords de la guitare. Je peux changer jusqu'à 3 cordes différentes de la guitare.
La désaccordée, donc?
La désaccordée, oui, parce qu'au-dessus, j'ai un peu peur qu'elle casse. Donc, je peux parfois avoir une chanson avec 3 cordes dans un accord ouvert. Donc, j'enregistre parce qu'après, si je la laisse un peu tomber, cette chanson, je ne sais pas où je mettais les doigts. puisque tout change, évidemment. Donc, c'est vrai que j'enregistre et après, j'écoute. Et puis, je la réapprends s'il le faut. Ou même sur les poèmes, j'écris, par exemple, la corde sol, elle est en mi, la corde ré, elle est en si, etc. Pour que, quand je prends le poème, savoir que ce n'est pas un accord normal.
Je suis allé vous écouter et j'ai été frappé par la manière dont, entre les chansons, vous parlez de la situation de la Grèce, la situation des Grecs. C'est un acte politique de chanter, Angélique Yannatos ?
Oui. Et je ne peux pas concevoir qu'un artiste ne peut pas témoigner de son temps. Je ne vois pas l'utilité de ça. Parce que quand je lis, par exemple, l'histoire de mon pays, de l'Antiquité, c'est à travers l'art qu'on se rend compte ce que les gens ont fait. C'est ça qui reste. L'architecture, bon, la musique, on ne sait pas comment les Grecs anciens chantaient, mais la peinture, la sculpture, la littérature, bien entendu, la poésie, évidemment, qui est l'art premier. Et donc, je me dis, on ne peut pas quand même témoigner, vivre et ne pas témoigner de son temps. Ça me paraît... Ça me paraît inconcevable.
Mais il y a le fait de témoigner son temps, il y a aussi le fait de résister, de dénoncer. Mm-hmm. Ça existe aussi, ça ?
Oui, oui, tout à fait. Et tout le dernier disque Reste la lumière, pour moi, ça a été un disque qui n'était que un disque qui témoigne de la misère de la Grèce actuelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous parliez de la colère hier. C'est pour ça que dès que je commence à chanter Reste la lumière, je suis prise d'une émotion qui me dépasse à tel point que la colère naît petit à petit. Et il y a un monsieur qui est allé acheter un disque après La Cigale et qui a dit à Clara qui vend les disques, il lui a dit « Mais qu'est-ce qu'on lui a fait ?» Et il me l'a dit, alors je me suis dit « Angélique, là ça suffit, il faut quand même un tout petit peu que tu te calmes. Et, qu'est-ce qu'on lui a fait ?» Et le monsieur en question, il ne m'avait rien fait, mais je suis quand même extrêmement fâchée contre l'Europe qui a laissé la Grèce se débrouiller seule avec les immigrés syriens et autres d'ailleurs. Et puis je trouve que ce qu'ils infligent à la Grèce actuellement est un état d'occupation. Ils sont en train d'occuper la Grèce, de vendre tout, de vendre les aéroports, les ports, les plages, les îles. Et je trouve que c'est... et puis ce que me dit ma famille, c'est-à-dire comment ils coupent dans les retraites où il y a des gens qui vivent avec 300 euros par mois. Et je trouve... c'est comme si, en fait, il y avait un plan pour qu'on occupe la Grèce.
Donc pour vous, être un artiste, c'est forcément témoigner de son temps,
oui.
Résister.
Oui.
Chacun selon ses armes,
comme dit Elitis.
Comme disait le grand poète grec Elitis, mm-hmm. dont nous reparlerons demain. Donc il faut que la chanson devienne un cri.
Oui. Oui. Je suis d'accord. Pas toujours, hein. Il y a des chansons douces aussi. Mais elle peut être aussi un cri, oui.
Est-ce que pour vous, un artiste se doit aussi d'être subversif?
Oui. Oui, oui. C'est comme ça que je le ressens. Subversif, oui, c'est peut-être le mot le plus juste. C'est-à-dire, moi, ça ne m'intéresse pas, les gens qui me parlent des petites fleurs et de l'amour tout le temps, etc. Et puis des choses un peu anodines. Non, j'ai envie qu'un artiste fasse que je me pose des questions. Et où je n'ai pas nécessairement les réponses, mais en tout cas que je me pose des questions.
Mais vous chantez aussi beaucoup l'amour?
Aussi, ça m'est arrivé, beaucoup.
C'est subversif, ça, de chanter l'amour? Ou ça peut être subversif?
Je ne sais pas, parce que comme je mets toujours en musique les poètes, ça peut l'être aussi, quand même, oui. Quand j'ai fait le disque Eros y Muerte, Eros et Thanatos, il y avait beaucoup de chansons de Neruda et de Palamas, qui est un poète, celui que ma mère adorait. Et c'est quand même des chants d'amour, mais qui disent des choses intéressantes. C'est pas juste « je t'aime, tu m'aimes » et « on s'aime ».
Ce qui m'étonne toujours, quand je vous écoute en concert, par exemple, c'est que ceux qui vous écoutent, pour la plupart, ne parlent pas grec.
Non. Mais ça, j'y pense pas.
Vous n'y pensez pas?
Non. D'abord, je traduis toujours. Toujours. Il y a les traductions, toujours. Que ça soit la traduction de la chanson ou quelque chose qui a un rapport avec la chanson qui va suivre. Et puis, la musique, pour moi, elle dépasse le langage. Moi, il m'arrive d'écouter des chansons des peuples dont je ne parle pas la langue et d'être bouleversée. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'inhérent à la musique qui touche un autre endroit de notre cerveau. Et on ressent ce que l'autre veut dire, même si on ne comprend pas le mot à mot. C'est ça qui est la chose fabuleuse dans la musique.
Vous nous avez dit tout à l'heure, Angélique Yonatos, que vous ne lisiez pas la musique et que vous ne l'écriviez pas non plus. La musique que vous composez pour vos chansons, elle m'a paru toujours très élaborée. À la frontière parfois entre musique traditionnelle, pas du tout folklorique, et la musique dite contemporaine. Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle la musique démotique?
Non. La musique démotique, en grec, ça veut dire musique populaire et surtout musique ethnique. Parce que la Grèce, elle a des musiques très différentes selon les régions. La Crète, par exemple, ou la Crète avec la lyra, etc. C'est ça qu'on appelle musique démotique. C'est-à-dire ce qui nous est venu par la tradition orale. Ou le Podos, qui est près de la Turquie, qui a une musique extrêmement élaborée. Avec des rythmes effroyablement difficiles, la musique des Pires, qui est dans les montagnes, la musique du Péloponnèse, les îles, c'est toutes des musiques différentes. C'est ça la musique démotique pour les Grecs.
Et votre musique, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi déjà sur cette frontière qui existe toujours entre musique traditionnelle et musique contemporaine, dans les arrangements aussi?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est parce qu'aussi, toutes les musiques que j'ai écoutées étaient très différentes. J'adore Xenakis, par exemple.
Yannis Xenakis.
Oui, qui est quand même un musicien qui a fait des choses très compliquées. J'aime la musique classique, j'aime la musique populaire, j'aime la musique démotique, comme vous dites, mais j'aime la musique interne. J'aime le flamenco, j'aime parfois des choses, la musique des pygmées. Je veux dire, il y a des musiques qui me touchent, qui sont de quatre coins du monde. Ensuite, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'un musicien, c'est-à-dire, probablement, on se nourrit de tout ça. Et quand on compose, moi, je compose beaucoup par rapport au texte. Et donc, si le texte m'inspire une musique un peu plus contemporaine, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu étrange, mais les Grecs trouvent ma musique difficile, par exemple.
Pourquoi?
Je ne sais pas. Parce que ma musique est probablement le produit de ce que je suis. Et moi, à 14 ans, je suis partie de la Grèce. Donc, j'ai été aussi bien nourrie par Ferré et Brel que de la Grèce, que de tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, forcément, comme je suis en plus analphabète, et que tout ça tombe dans mon oreille, et ça fait une soupe, ou enfin une mixture, disons, pour être plus élégant, qui fait que tout ça me nourrit. Et après, évidemment, j'aime mon propre style. C'est évident, je le sais. Tout ça est nourri par tout ce que j'ai entendu, y compris de la musique classique, d'ailleurs.
D'accord, et le travail de composition proprement dit, il se passe comment alors ? Je vous pose cette question parce que c'est toujours assez mystérieux pour le profane de se dire qu'une chanson se compose d'un texte et d'une musique et que ce texte et cette musique ont l'air d'avoir été faits l'un pour l'autre.
Oui, c'est là le grand mystère. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quand la musique surgit du texte. Probablement que quand je lis un texte, j'entends une musique. Et après... Je prends ma guitare et je commence à chercher. Et tout à coup, le poème tombe dans les filets de la musique. Ou peut-être la musique tombe dans les filets du poème, pour être plus exact. Et tout à coup, la musique surgit. Mais je suis incapable de savoir quand elle surgit. Ça reste extrêmement mystérieux pour moi-même. Je ne sais pas, en fait.
Donc lorsque vous composez, vous avez toujours un texte sous les yeux ?
Toujours.
Il vous est jamais arrivé de composer une musique ?
Ça m'est arrivé, mais très rarement. Et après, j'ai cherché des poèmes pour voir s'il n'y avait pas un poème qui allait être d'accord pour être dans cette musique. Mais ça a dû m'arriver, je sais pas, ça m'arrive une fois tous les 5 ans, ça. Sinon, je commence à mettre en musique le poème, et ensuite vient la partie orchestrale. C'est-à-dire que le poème lui-même engendre la partie musicale sans voix. C'est comme ça que ça se passe. Mais je vous avoue que c'est très énigmatique pour moi aussi. Je ne comprends pas comment ça se passe. Et j'ai beau m'enregistrer, je ne trouve toujours pas comment ça se passe.
Donc après plus de 40 ans de carrière, parce que vous avez commencé votre carrière en 72, après 18 albums, il n'y a toujours pas une recette pour mettre de la musique sur un texte ?
Oh que non. Voilà, absolument pas. Et puis il y a des chansons qui restent dans les tiroirs, où je trouve une mélodie qui me plaît, puis je me dis, ben, on verra ce qu'elle va devenir. Et parfois, je prends des vieilles cassettes, etc., où il est marqué Angélique travaille. Et puis, je les entends, je dis, ah, ça, c'est intéressant, peut-être que je vais le développer. Mais je ne sais pas répondre à cette question. Mais c'est peut-être le côté... Parce que je n'ai jamais écrit la musique.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que dans votre travail de composition, il y a toujours une sorte de quête d'harmonie ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre, ça ?
Harmonie et rythme. C'est-à-dire que j'adore le rythme, j'adore les rythmes compliqués. Et parfois, ça pose même des problèmes un peu pour mes musiciens. Parce que Catherine, elle se moque beaucoup de Catherine.
Catherine Fotonaki, qui vous accompagne depuis une dizaine d'années.
Eh bien, parfois, je lui dis, voilà, j'ai fait ça. Et elle fait « oh ». En grec, ça veut dire « oh mon Dieu ». Et après, quand je le lui joue, elle me dit « mais Angélique, mais pourquoi tu me dis que c'est simple ?» Mais c'est pas simple. Je lui dis « mais si, pour toi, c'est simple, puisque t'es grec, et donc tu comprends très très bien tout ça ». Et puis hier, on a fait une expérience, parce que j'étais chez elle, qui était extrêmement amusante. On a joué une chanson un peu compliquée de moi, qui s'appelle « Oído Soliatores », et puis elle me dit « mais tu frappes comment le rythme que tu... » Alors je lui ai frappé le rythme. Elle me dit « moi, je ne le frappe pas du tout pareil ». Elle m'a dit comment elle frappait le rythme. Bon, on fait quand même la même musique. Et puis, on était mortes de rire, parce qu'en fait, moi, je l'entendais autrement, elle l'entendait autrement. Et c'est ça qui est fabuleux. C'est que, bon, mais on arrive quand même à jouer ensemble.
Et on a l'impression que votre musique est toujours très élaborée, qu'elle laisse peu de place à l'improvisation. Je me trompe ?
Pas trop. Non, vous ne vous trompez pas. Je suis un peu maniaque, oui, quand je compose. Après, quand je joue seule, je peux chercher à improviser, mais souvent quand je suis seule. Mais c'est vrai que dès que j'ai composé un morceau, ensuite, je l'enregistre et après je joue dessus en me disant, bon, si c'est un violoncelle, il fera ça. La deuxième guitare fera ça. S'il y a une percussion, elle fera ça, etc. Et c'est comme ça que je travaille, en général. C'est pour ça que c'est vrai, vous ne vous trompez pas. Il y a peu de place pour l'improvisation. Ouais.
Et donc, j'aimerais qu'on en vienne maintenant à cette fameuse guitare. Vous en avez un tout petit peu parlé hier, mais comment est-ce que vous avez appris à jouer de la guitare ? Vous n'avez pas pris de cours ?
Non, non. C'est mon frère qui m'a appris 3 accords. pour jouer les Beatles. Ou... et après, il m'a dit, maintenant, tu te débrouilles. Et il a bien fait. Il a bien fait parce que c'est comme ça que j'ai découvert comment je me disais, mais là, il me manque une basse. Comment je vais faire? Il me manque une basse. Ben, pas grave, je vais la descendre. Et là, il me manque, ah, si j'avais le ré qui n'était pas un ré, mais qui était une autre. Et donc, je cherchais. Et c'est comme ça que j'ai fait ces accords ouverts qui parfois un peu les autres musiciens se tirent les cheveux. Mais c'est ça qui m'a aidé à trouver ça. Il m'a appris le ré majeur, le do et le sol, et puis il m'a dit, maintenant tu te débrouilles parce que ça m'embête. Eh ben, voilà. Il a très bien fait.
Alors, je vois que votre guitare est tout près de vous, là. Est-ce que vous pourriez justement prendre cette guitare et nous faire entendre un peu ce que vous en fait, de ces cordes et de ce morceau de bois?
Alors, là, c'est une guitare qui est en accord, ce qu'on appelle ouvert. C'est-à-dire que le sol, il n'est plus sol, il est mi. Donc, j'ai trois mi. Voilà, j'ai trois mi. Et après... Alors, ben, je peux vous jouer la chanson du dernier disque qui s'appelle « Et si l'arbre brûle, reste la lumière », qui a donné le titre au disque, et qui finit en disant « Et si nous sommes restés nus et entourés de loups, notre décision de nous battre reste intacte ». C'est sur un texte de Dimitris Mortoyes.
Στην αποτιστή έρημη αρίζω βολάνη κάκτη. Οι πηγές αστέρεψαν πάλι θέλει βρέξει. Στο φανεμένο σπίτι κονιός θα ξεπεζέψει.
Ça, c'est les deux premiers couplets.
De quoi parle-t-elle, cette chanson?
Il dit, si l'arbre brûle, reste la cendre et la lumière. Le jeune homme, le jeune, rentrera encore dans sa maison. Et si l'arbre brûle, reste la lumière. Voilà, c'est un poème de Mortoyes, qui est mort à 41 ans en Angleterre, pendant la dictature des colonels, et que j'aime beaucoup.
Est-ce que le fait de vous accompagner à la guitare, c'était à l'origine un moyen pour vous de cultiver une sorte d'inclination à la solitude? Vous êtes assez solitaire, non?
J'ai l'impression. Oui, un peu trop, à mon goût. Mais c'est bien parce qu'en même temps, cette solitude m'aide à réfléchir. C'est-à-dire, j'aime pas trop sortir et j'aime pas trop les mondanités, ça c'est quelque chose qui me fatigue un peu. Et puis oui, c'est une compagne la guitare, c'est-à-dire que je joue beaucoup dans la journée, et je cherche des choses et je oui, c'est mon amie, ma grande amie.
Alors, quand on observe de près votre carrière, là encore, on a le sentiment que même si vous êtes une grande solitaire, vous avez quand même cherché parfois à aller un peu contre votre nature et à tenter l'expérience de l'autre. Et je crois que c'est à partir de Marie des Brumes,
oui.
Marianne Fali,
oui.
en 1984, que vous avez véritablement commencé à vous associer
Absolument.
À d'autres musiciens.
Tout à fait.
Et pas avec n'importe qui, avec un baryton, Spyros Sakkas.
Oui.
C'est une rencontre importante.
Importantissime, oui. Qui était un des grands amis de Xenakis et qui est un chanteur d'opéra que j'avais rencontré à une émission de télévision en Belgique en 81. Et comme j'avais envie de mettre en musique Marianne Eiffel, qui est une femme imaginaire sortie de la tête de Odysseus Elitis, il fallait qu'il y ait deux voix. C'est-à-dire, il y a Marianne Eiffel dit et l'antiphoniste dit. Et Spyros était l'antiphoniste, qui était le poète, évidemment. Et donc, j'ai composé en lui disant, si je compose ça, est-ce que tu vas le chanter avec moi? Il m'a dit oui. Et c'est comme ça qu'on l'a fait. Et puis il y a Alexandre Mirat, qui est un chef d'orchestre grec, qui habitait aussi la France, qui a fait l'orchestration, et c'est comme ça qu'on l'a monté au Théâtre de la Ville en 84.
Ça a changé quelque chose pour vous ?
Oh oui. Oui, parce que quand j'ai écouté pour la première fois ma musique par un petit orchestre de chambre, bon, j'étais ravie en même temps, et en même temps, c'était pour moi une expérience mystique. C'est-à-dire voir un violon, violoncelle, percussion. J'étais très, très angoissée en même temps et très heureuse. Oui, mais j'ai beaucoup aimé ça.
Et je reviens sur cette rencontre avec Spyros Sakkas. Bon, ça a été une rencontre importante, mais peut-être aussi pour la scène, non ?
Pour la scène, oui. Il m'a dit, la scène, c'est la chose la plus sacrée pour un artiste. Donc, quand tu montes sur scène... Tu montes comme si tu montais dans une église. C'est-à-dire, il était extrêmement, pour ça, il était extrêmement sévère sur comment on doit être sur une scène.
Oui. Donc, ça a changé votre manière d'aborder.
Oui, oui, parce que moi, j'étais plus légère par rapport à la scène. Et lui, il m'a dit, Angélique, la scène, c'est une église. Chaque fois que tu montes, tu donnes le meilleur de toi-même. Et il avait raison. Et maintenant, je continue à la voir comme ça.
Merci Angélique Yonatos.
Merci à vous.
Demain, nous reviendrons sur la chanson, mais par une entrée un peu différente. Et nous évoquerons votre goût, votre prédilection pour la poésie et les poètes.
D'accord.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Stéphane Manchematin avec Angélique Yonatos. À voix nue, attaché d'émission Claire.Signon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Doria Zénine, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.